toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Donc aujourd'hui nous avons notre chroniqueuse Louise Véronique Sicotte qui est là avec nous pour nous parler de cinéma. Et elle nous parle d'un film qui s'appelle Délicieux de Éric Besnard. Voilà, donc on va en parler dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous recevons également Louise Bédard et Marc Boivin pour nous parler du projet Feldman-Renault dans le cadre du festival Quartier Danse. Ce projet va se passer à la salle Bourgie le samedi 11 et le dimanche 12 septembre. Donc restez avec nous jusqu'à la fin, on en parle, comme je vous l'ai dit, en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on part en musique avec Éric Baudry qui nous chante La Futilité.
Je suis une marionnette, je critique, je rouspète. Je ne suis qu'un pantin, faut toujours qu'on me tienne la main. Je suis une marionnette, pacifique mais redneck. Je ne suis qu'un pantin, je fais pareil comme mon voisin. Et de longs discours et de grands détours qui font briller la futilité. Après le discours à bout de détour, on se rendra jamais dans 100 ans. Je tiens par les fils de la bonne conscience. Je reste immobile, sauf pour prendre des vacances. Je tiens par les fils du libre-échange. Je reste immobile, je veux surtout pas qu'on me dérange. Et de longs discours et de grands détours qui entraînent à la futilité. Après les discours et à bout de détours, on se rendra jamais dans 100 ans. Se répète et je n'y change rien. Je vois dans mes lunettes la vie qui s'éteint. Les erreurs se répètent et j'ai l'impression de servir à rien. Et de longs discours et de grands détours qui font traîner la futilité. Après les discours à bout de jamais dans 100 ans.
Eh bien, c'est pas dans 100 ans qu'on va parler avec Louise Véronique Sicotte. Bonjour Louise Véronique.
Bonjour Arlette.
Alors, tu vas nous parler d'un film qui s'appelle Délicieux.
Eh oui.
Rien que le titre, ça donne envie. Alors maintenant, pour savoir si jamais je n'ai pas fait d'erreur et il me semble que son nom se prononce comme ça, c'est bien Éric Besnard ou...
Je pense bien.
Oui, tu penses bien aussi. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde.
Oui, oui. C'est un film qui, j'espère, en vous parlant, va vous donner...
Le goût
de l'eau à la bouche et éveiller vos papilles. Parce que c'est un film sur la gastronomie, enfin sur la cuisine. Un film d'époque, hein, qui s'inscrit un peu dans les autres films de ce type. Comme on pense, te souviens-tu du Festin de Babette?
Ah oui, bien sûr.
Bon, alors c'est dans ce style-là. C'est vraiment sur un film culinaire, mais un film d'époque, qui en fait se situe juste à l'aube de la Révolution française, en 1789. En fait, Éric Besnard s'est intéressé à la gastronomie, puis surtout à l'histoire du premier restaurant. D'où ça vient, le concept de restaurant?
Oui, d'où ça vient?
D'où ça vient?
Belle question à se poser.
Et il a quand même joué un peu avec l'histoire. Hein? Il a pris quelques libertés.
D'accord.
Parce que le premier restaurant s'ouvre à Paris en 1765. Et lui, il situe son récit quand même un peu plus tard, en 1789.
Mais il choisit... On va dire un des premiers, alors.
Oui, mais plus il s'intéresse aux restaurants en province.
Oui.
Donc, la gastronomie du terroir.
Mm-hmm, la meilleure.
meilleure. Mais en fait, c'est qu'il y a une sorte d'opposition dans ce film entre la gastronomie des nobles, des châtelains, et le restaurant, justement, qui s'adresse plus à la population, à tout le monde. Hein? Alors, on voit vraiment une évolution, une sorte de révolution dans l'histoire de la gastronomie à cette époque-là. Et ça se traduit par un cuisinier, un chef, interprété par Grégory Gadebois, un homme plutôt ventru, un bonhomme, peu taciturne, mais un chef.
Un vrai cuisinier, quoi.
Un cuisinier, oui, un chef, mais vraiment à la, disons, au service du duc de Chamfort. Et d'ailleurs, une des premières scènes du film, c'est un grand festin au château, hein, avec la noblesse. Parce qu'à l'époque... À l'époque, le prestige des nobles, ça dépendait de leur table. Plus leur table était élaborée, plus ils avaient du prestige et du pouvoir. Alors, mais c'est vraiment, vous savez, les services à la française à l'époque. Donc, vraiment une sorte de buffet. Tout était étalé, très guindé. Et c'est donc l'histoire un peu la révolution de ça, parce que ce cuisinier-là, il veut faire des créations, il veut innover.
Oui.
Et il est vraiment un peu restreint dans son élan et même humilié.
Ah oui, parce que s'il le fait avec... j'ai vu la bande-annonce.
Oui.
Donc,
oui.
Quand il le fait avec un légume qui est considéré comme un légume du pauvre, il se fait jeter... C'est ça, non? Avec l'histoire de la pomme
absolument.
De terre.
En fait, c'est la pomme de terre et la truffe.
Oui. Alors que la truffe.
la truffe, hein.
Oh, mon Dieu.
En fait, son émancipation, je dirais son affranchissement, va aussi être accéléré par la venue de Louise, une femme un peu mystérieuse, interprétée par Isabelle Carré.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, juste mentionnons que Isabelle Carré et Grégory Gadebois ont des longues feuilles de route, autant au cinéma qu'au théâtre, hein. Donc, c'était vraiment deux acteurs qui étaient faits pour se rencontrer, oui. Et faire une excellente paire, une complicité.
Un beau duo.
Un beau duo d'acteurs, absolument. Et ce film-là, bon, c'est une... Il y a un côté... bon, un côté fiction, bien sûr, mais c'est basé quand même, je dirais... Il y a un côté politique aussi, historique, parce que... Il y a, dans la trame de fond, il y a aussi toute la révolution du peuple.
Oui, c'est le moment où ça change et où, et où on arrête d'être humilié par les plus riches et les plus...
Oui, les plus
nantis. Les non, nobles. Pas parce qu'ils sont nantis, mais parce que certains sont vraiment hautains et odieux. Merci, Maurice. Je cherchais l'adjectif qui allait avec. Tout le monde n'était pas comme ça, mais là, dans l'endroit où il travaille, il est quand même...
D'ailleurs, j'aimerais citer, Arlette, c'est une citation, une parole du duc de Chamfort, interprétée brillamment par Benjamin Laverne.
Oui,
et d'ailleurs, cet acteur-là, ce personnage-là, il est délicieusement désagréable.
Pas sympathique, alors que c'est un comédien... fort sympathique.
Absolument, c'est ça, mais il y a une sorte de jouissance dans son rôle d'être détestable. Et il dit, il ne suffit pas de vouloir manger, il faut savoir manger. C'est un art, la vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels.
Quelle horreur d'entendre parler comme ça!
Et on voit toute la mentalité de
oui.
l'époque. Hein, bien sûr. Et mais je vais te citer aussi une autre phrase qu'on dit dans le film et qui est tout à fait l'inverse. Une humanité mieux nourrie est une humanité qui pense mieux.
C'est vrai.
Hein? Et donc, on va voir l'évolution de l'installation de ce restaurant en campagne. Et c'est complètement à l'opposé de la scène du banquet, évidemment, parce que là, c'est là qu'on va aussi apprendre qu'il y a le service à la française et le service à la russe. Hein? Donc, on apprend sur les termes de la mise en place des tables, oui. Du service à l'époque. Hein?
Ce que ça veut dire. Mais faut aussi dire que... Isabelle Carré, d'après ce que j'ai vu, vient pour apprendre de ce grand homme.
Oui, oui, oui.
Et elle l'encourage, certes.
Elle évolue.
Mais elle apprend.
Elle apprend. Et les deux évoluent. Les deux se font confiance mutuellement et ils développent une confiance en leur capacité. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a aussi une sorte de... Il y a des aspects de modernité. Quand on pense à l'entrepreneuriat, ils développent leur propre concept. Et aussi, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit à la cuisine. Alors, elle entre dans la cuisine. Elle devient légale de lui. Hein.
Mais par le biais, au départ, d'être son apprenti. Mais on va en reparler dans un instant. Parce que quand on la voit arriver, j'ai pas vu le film. Hein, je parle toujours par rapport à la bande-annonce. Elle vient lui proposer...
Oui.
Sans elle, peut-être qu'il n'arriverait à rien.
Mais on constate.
En tout cas, au départ, elle est bel et bien obligée de se présenter comme une apprentie, une simple apprentie. Mais on s'en parle dans deux petites minutes. On part en musique. Ah. Louise Véronique, tu patientes avec nous et on va écouter Ken Lo qui nous chante une seule langue et pas celle à manger. Mais celle à parler seulement. Donc, on va l'entendre dans un instant. Pardon ?
Mon heure du berger, mon beau béchon, mon boire, mon manger, mon bourrichon. Belle jument de trompette, ma farine d'escampette, mon pain, ma mie. Mon ami, ma tendre boussole, ma seule aimante, mon grand tournesol, ma seule amante. Mon beau démon de minuit, assassin de mes ennuis. Mon bel échange, mon bel ange, mon feu de Bengale, mon coup de foudre, mon alter égal, ma graine à moudre. Toi que j'aimerais encore à contre-vent, contre-corps, mon artichaut. Chaud. Ma gentille bête, mon caressant, mon bouilleur de tête, tourneur de sang. Mon chagrin, mon juste au cœur, mon amazone de cœur, mon amadou, mon tout doux, mon bras du dessous, ma... Bien-aimé, mon grand par-dessous, mes yeux fermés. Mon adorable Marlou, my love, my love, my love, ma grosse corde. Ma concorde, ma grande effigie, ma gigolette. Ma proue, ma vigie, ma goélette. Dans ma bouteille à l'amour, c'est un message au long cours, un SOS.
de tendresse, t'es mon boire, mon manger, mon bourrichon, mon heure du berger, mon beau péchon. Ma belle jument de trompette, ma farine d'escampette, mon pain, ma mie.
Alors finalement, on vient d'écouter Danny Nicolas qui nous chantait mon Bobéchon et on écoutera Ken Lo tout à l'heure. Donc on continue, Louise Véronique. Dans les, ici, il est connu aussi comme, comme acteur, Guillaume de Tonquédec.
Oui.
J'aime beaucoup ce comédien qui, oui. Qui joue des rôles aussi bien humoristiques qu'autres d'ailleurs. Et il joue là-dedans un... Un rôle sympathique ou pas sympathique?
Les rôles secondaires sont quand même assez bien développés.
D'accord.
Mais je pense que l'accent est vraiment mis sur le couple que forment
Isabelle Carré et Grégory Gadebois.
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on voit l'évolution de leur... d'abord de leur méfiance de l'un et l'autre et ensuite une sorte de collaboration qui devient... plus intense, plus égalitaire aussi. Et c'est... mais il y a un aspect dont j'aimerais vous parler, c'est l'aspect de la photographie.
Oui.
Parce que ce film-là est très esthétique. Et il a eu beaucoup de... Le réalisateur a eu beaucoup de soins, a pris beaucoup de soins sur tout l'aspect de l'éclairage et de la composition des plans, bien sûr. Mais il s'est inspiré beaucoup des tableaux de Vermeer, la lumière, les chandelles, les torches. Et on a l'impression que parfois, certaines scènes, c'est comme vraiment des tableaux.
Oui.
Et il s'est inspiré aussi des natures mortes de Chardin. Chardin, c'était un peintre, Séméon de Chardin, un peintre du 18e siècle, il est un des plus grands peintres du 18e, mais aussi reconnu pour ses natures mortes. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les natures mortes, c'est comme un arrêt sur image, là. Il y a comme des natures mortes qu'on voit comme des interludes entre les différentes scènes du film. Comme s'il avait reproduit les peintures de Chardin.
Il aime ça, les natures mortes, dit-il
oui.
D'ailleurs.
Et ça crée une atmosphère très particulière.
Et en plus, il a, si je ne me trompe, découvert une grange du XVIIIe siècle au fin fond du Cantal, pour ceux qui connaissent les régions de France. Donc, c'était pas le plus près de la ville. Et il a l'air d'avoir dit qu'il a tout créé, quoi. Il a tout créé de toutes pièces.
De toutes pièces. On voit l'évolution de cette grange, justement, qui est tout à fait dénudée et qui va devenir un restaurant champêtre. Alors, il y a l'évolution du bâtiment aussi. Et pour se préparer, c'est vrai, le fameux acteur Grégory Gadebois, comment il s'est préparé pour devenir un chef, hein? Eh bien, il a suivi pendant 3 jours le chef du Quai d'Orsay. Pas le moindre. Hein?
Ah, ben oui.
Parce que le Quai d'Orsay, c'est là où les chefs d'État viennent manger quand ils sont en France. Alors, pendant 3 jours, il a appris avec lui, il a appris à faire semblant. Donc, on le voit cuisiner des plats, mijoter et tout, créer des amuse-gueules, il est très crédible dans son rôle, vraiment.
En tout cas, dans l'extrait que j'ai vu, j'en doute pas une seconde. Et puis, si on parle aussi de... D'abord, il dit aussi que, comment dirais-je, le film se déroule sur une année entière. Qui dit une année entière dit 4 saisons.
Oui.
À mettre dans le temps du film.
Oui, oui.
Ça ne doit
oui.
pas être aussi évident que ça.
Non, c'est pas évident parce que ça n'a pas été tourné sur pendant un an non plus là.
Oui, aussi pour ça.
Vive la technologie, hein, pour créer les différentes saisons. Mais les images sont magnifiques, hein, les images de cette grange, de ce territoire champêtre, c'est très bucolique. Quand on regarde le film, et moi je l'ai vu malheureusement sur mon ordinateur, mais il faut le voir sur le grand écran.
Ça doit donner autre chose, oui.
C'est autre chose, là, parce que le film est quand même, il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de regards, et d'ailleurs, le réalisateur a inscrit les regards et les silences dans son scénario. Donc il y a beaucoup de jeux de regards, d'émotions qui passent par le regard. Bon, je dirais, mon bémol, Arlette, c'est que côté scénaristique, il y a quand même, je dirais, certains éléments, des rebondissements qui sont un peu forcés.
D'accord.
Mais il y a aussi peut-être une certaine longueur. Mais en fait, il y a un côté très contemplatif dans ce film. Et on a envie de sauter dans l'écran et de humer les plats et d'y goûter.
Et de les goûter!
Et oui. Alors, c'est une torture quand on a faim.
Et qu'est-ce que tu as pensé de la musique? Parce qu'il a l'air d'avoir mis, de s'être un petit peu concentré sur de la harpe.
Oui, effectivement.
Et ça donne quoi?
Le générique de fin, ça crée une atmosphère encore plus de l'époque. Hein. C'est très, très doux. Et on se laisse bercer par cette musique. Oui. C'est un film qui fait appel au sens, hein, à la vue par autant le paysage que les costumes des paysans ou de la bourgeoisie, mais des plats, hein, les plats qui sont absolument des chefs-d'œuvre.
Oui, bien sûr.
Et puis la musique, on aimerait humer, on aimerait que tous les cinq sens soient... activé, en fait.
Il y a cette histoire parce qu'il fallait bien savoir aussi d'où les restaurants commençaient. Mm-hmm. Et c'est aussi l'histoire avec un grand H parce que c'est la fin du sang bleu.
Oui.
Et le début de la révolution.
Oui, c'est la démocratisation de la cuisine, en fait. Oui. Et quand on passe justement du service à la française au service à la russe, parce que le service à la française, juste pour rappeler, c'est le buffet, tout est étalé et les convives mangent ce qu'ils veulent, et tout est à la vue, tandis que le service à la russe, comme on peut voir dans les restaurants, eh bien, les serveurs apportent un plat à la fois à chaque convive.
D'accord. Donc, il y a des restaurants qui font ça, et il y en a d'autres qui font autrement. C'est plus souvent... à la russe, non? Un plat par un plat?
Oui, mais bon. Oui. Puis après, il y a eu l'évolution au service à l'anglais.
C'est devenu comme ça. En tout cas, dans les deux dernières minutes qui nous restent, c'est un film que tu nous conseilles.
Ben oui, je conseille parce que c'est un film sur la gastronomie, la cuisine, les sens, et un film d'époque aussi, mais... Comme je vous disais, il y a quand même un aspect moderne dans ce film, surtout avec l'arrivée du personnage d'Isabelle Carré, qui, je ne vous dirai pas parce que... Bon,
non, elle, ne gâche rien.
Un certain mystère en elle. Mais son entrée dans le film est quand même une modernité, changement, de collaboration. Et, elle est affirmée, cette femme.
On finira par dire que derrière tout grand homme, il y a toujours une femme. N'est-ce pas?
Oui,
on peut le dire comme ça. En tout cas, on arrive à la fin de cette entrevue.
Ce film, merci. Arlette, est présenté dans 17 salles au Québec.
17 salles, donc on va avoir le temps d'aller le voir.
À partir du 10 septembre,
donc c'est ce week-end. Merci beaucoup, Louise Véronique.
Ça a été un plaisir et j'espère que ça a éveillé vos papilles.
En tout cas, tu m'as donné faim. On va partir en entendant Ken Lo qui nous chante Une seule langue. À bientôt, Louise Véronique.
À bientôt, au revoir.
Shorty bad and she hella rare. Models on the gram, they don't compare. So that we can make a great pair. Doesn't even matter if I do not speak the front set. I'm a gentleman, I got hella manners.
Love a boy, that's my early language. When I got a vision, I got hella passion. Staring at my fit, yeah, I got the fashion. Yeah, I got the drip. Yeah, so I'm feeling big, big. Got the Maggies in my hand, taking big sips. Shorty says she like my flow, I feel like body rich. Cause I'm getting out the box, it cannot hold me in. Took her on a date, nicely. Think her mama wanna be my wifey. I'm a glacier boy. Baby, catching feeling so quickly. Why she blow my phone, if she want me? Game top tier, you should trust me. Is that pretty money? Yeah, it must be, surely. I got hella pattern, wait, yeah, she got me whipped. Shorty bad, and I got a wheel of rare. It's a great match, so we swerving and I went. She might rather die, yeah, she always do it right. Yeah, she always better when I got her by my side.
Faudrait être sincère, en étant dans le bar. Mais est-ce qu'on le comprend?
That's my only language.
Seules les femmes et les hommes. Hey, mon poste au binali. Il faut que aujourd'hui je me bande des choses. Les notes, oh oui. On a deux jours, bien à côté. Un lèvre, deux beaux yeux, mais un seul langue. Une seule langue, une seule langue. Tout notre temps, trop pas besoin de se presser. Sponsor comme des champions oubliants.
Surely, I got hella pack and wait, yeah, she got me whip, whip, and I got a whip, whip. It's a great match, so we swerving in a whip. She might rather die, yeah, she always do it right. Said she always better when I got her by my side.
Faudrait être sincère et honnête, on en a parlé. Mais est-ce qu'on l'a compris? Nourri par le combi. Solide parmi les zombies. Hey, hey, hey. Je te parle maintenant du monde, pense au bien aller. Il faut ça aujourd'hui, on se met un bon vieux saut. Toutes les notes, oh oui. On a deux joues bien à côté, sont deux lèvres, deux beaux yeux, mais une seule langue, une seule langue, une seule langue. Tout notre temps, trop pas besoin de se presser. Se mentir comme des gens qui oublient. Une seule langue, une seule langue.
Alors, restez avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Eh bien, on parle de danse, le projet Fedman Renault, la plus récente création de la chorégraphe Jeanne Renault, avec ses danseurs fétiches Louise Bédard et Marc Boivin. Alors, on se donne rendez-vous dans un instant. Restez avec nous.
Faramineux, avec votre animatrice Arlette Farah.
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
Derrière chez nous, y a un champ de noix. D'où venez-vous, promenez-vous belle? Derrière chez nous, y a un champ de noix. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
J'en cueille deux, j'en mange trois. D'où venez-vous, promenez-vous belle? J'en cueille deux, j'en mange trois. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
J'ai été malade au lit trois mois. D'où venez-vous, promenez-vous belle? J'ai été malade au lit trois mois. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
Tous mes amants veulent. Tous mes amants venons y voir. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
Promenez-moi de peine.
Celui que j'aime, il ne vient pas. D'où venez-vous, promenez-vous belle? Celui que j'aime, il ne vient pas. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
Je
l'aperçois l'amour qui vient. D'où venez-vous, promenez-vous belle? Je l'aperçois l'amour qui vient. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
Dans sa main droite tient un gant blanc. D'où venez-vous, promenez-vous belle? Dans sa main droite tient un gant blanc. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
C'est pour nous marier ce printemps. D'où venez-vous, promenez-vous belle? C'est pour nous marier ce printemps. D'où venez-vous, promenez-vous belle? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi? D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
D'où venez-vous, promenez-vous comme moi?
Alors nous venons d'entendre le groupe De Temps en Temps, D'où venez-vous ? Et d'où nous viennent ? Bien comme promis, chose due, Louise Bédard et Marc Boivin sont avec nous. Bonjour Louise, bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci. Bon.
Alors vous êtes là pour nous parler du projet Fedman Renault dans le cadre du festival Quartier Danse qui va se passer à la salle Bourgie. Je le répète toujours, cette très belle salle qui est magnifique et qui a une sonorité aussi magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans ce projet-là?
Madame Renaud avait le désir de travailler sur une pièce de Morton Feldman qu'elle a rencontrée en fait dans les années 40, fin des années 40. Elle a rencontré ce compositeur-là qui l'a initié à la musique contemporaine. Et des décennies et décennies plus tard, elle a voulu lui rendre
un hommage,
oui, si on veut, donc de faire quelque chose avec nous. Mais il y a une
Ses danseurs fétiches.
Pardon?
Vous êtes ses danseurs fétiches aussi. Vous êtes les personnes qu'elle prend avec lesquelles qu'elle vous fait danser le plus souvent. C'est ça aussi?
Je gagne un peu là. Pour dire que la phrase, elle est sortie, je l'ai entendue, mais je pense que ce qui est plus juste, c'est parmi les danseurs qu'elle aime bien, nous sommes là. Mais
alors, j'allais dire vous étiez ses préférés, mais bon, si vous voulez, c'est
non,
parmi.
Non, c'est ça. On va rectifier ça. Nous sommes deux de ceux qu'elle aime beaucoup et qui sont proches d'elle, autant au travail qu'en amitié.
D'accord. Bon, ben c'est déjà ça. Voilà. Alors, elle l'a rencontrée effectivement quand elle avait 17 ans, d'après l'histoire que j'en ai lue. Et elle trouve ces personnages, donc vous êtes, comme elle dit, deux personnages, deux êtres. Elle exprime une notion de désir entre deux êtres. Donc, elle parle de différence sexuelle, d'attirance, de fléchissement et leur quête respective d'identité. J'ai bien aimé ça, moi.
Oui, effectivement. Et ce que j'aime aussi de comment on approche le mot désir, le terme peut être souvent attaché au romantisme ou à la sexualité ou des choses proches de l'image de couple.
Oui.
Mais le désir de base est un désir de vivre. Et donc, c'est ce désir fondamental-là, là, l'éros et thanatos, qui fait qu'on doit se définir pour créer notre propre vie, pour être. Et je pense que dans cette pièce-là de Jeanne, ça se rapproche beaucoup à ça. Donc, il y a les deux êtres qui cohabitent et qui se cherchent eux-mêmes. Mais tout ça se déroule énormément dans une abstraction qui est très, très proche de l'œuvre musicale.
Alors, on va en entendre un morceau tout à l'heure, un extrait. Quand on l'entend et qu'on vous voit dessus, vous êtes vous êtes proche sans l'être vraiment. Et il est parlé aussi dans ce projet de travail de transmission, de vécu et de savoir-faire. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans?
Mais en fait, je vais juste raconter une anecdote. À chaque fois qu'on s'est retrouvés en studio avec Jeanne, je pense qu'avant toute chose, avant de commencer à bouger, Jeanne nous racontait quelque chose de sa vie.
D'accord.
En lien avec la danse, hein, bien entendu. Et que ce soit une histoire d'amour, que ce soit des lettres, que ce soit la façon dont elle approchait le mouvement, la façon dont elle enseignait, la façon dont elle a reçu l'enseignement de maîtres comme Merce Cunningham et d'autres à New York. Ça faisait partie d'un dévoilement de sa part, puis d'une transmission de l'histoire de la danse à travers ce qu'elle a vécu. Et moi, je trouve que justement, c'est de nous rendre poreux à l'inscription de la danse chez elle versus nos corps très contemporains, d'autres façons de bouger et tout, et de voir comment on se rencontre là-dedans, en fait, dans nos expériences à nous, à Marc et à moi, et celle de Jeanne.
Vous y avez participé aussi à ce projet? Ou vous l'avez pris une fois qu'il était construit, ou est-ce que vous êtes rentrée avec elle dans ce projet?
On est rentré avec elle dans ce projet.
Oui.
Oui, oui, oui.
Oui, en fait, c'est elle qui nous a invités à l'intérieur. Elle a commencé. La genèse totale, ça fait au-delà de 5-6 ans. Elle a commencé avec Louise en recherche en studio pour le plaisir de travailler ensemble.
Oui.
Ensuite, elle m'a invité. Et ensuite, elle a rédigé un projet où elle a nommé qu'elle avait envie de faire une recherche. Sur la différence entre l'émotion véhiculée par le corps lorsqu'il est capté soit en live, donc en spectacle, ou soit en vidéo ou en film. Et de cette recherche-là, c'est joint à nous Mario Côté, qui est un vidéaste, cinéaste, et un film en est sorti de cette portion-là du projet. Et là, après ça, elle a voulu revenir en studio. Son énergie vitale est impressionnante, son énergie de vouloir créer... hallucinante, là, à 80... On parle de 89, 90, 91, 92 ans, là, c'est quand même impressionnant.
C'est ce qui donne envie de... Quand on voit des personnages comme ça, c'est ce qui fait moins peur de vieillir, en tout cas pour moi.
Voilà, c'est ça. Alors, elle nous a demandé de revenir en studio, et c'est seulement à ce moment-là où elle a comme dans un certain sens un peu balayé ce qu'elle avait créé avant, même si elle voulait que la mémoire de ça reste avec nous. Mais elle est arrivée avec cette nouvelle musique-là de Feldman, et on a senti qu'avec quelque chose venait de chavirer, comme si elle voulait honorer quelque chose qui lui appartenait sans la gêne de se dire ça date d'un autre temps. Fait que là, on dirait cette période-là qui existait il y a de ça plusieurs années, qu'on pourrait penser que c'est suranné, que c'est terminé, mais il y a quelque chose de très vibrant là-dedans. Et aussi la sagesse d'une personne de son âge sur la vie, sur qu'est-ce qui est l'essentiel. Et elle a dénudé, enlevé, est allée à l'essentiel de la résonance qu'il y a dans les corps, dans le mouvement, dans le son.
Ouais, ça fait rêver. Vous connaissiez déjà cette pièce-là?
Non, pas moi. J'avais déjà dansé pour Jeanne sur d'autres pièces de Morton Feldman.
Mais pas celle-ci.
Non, c'était plus des quatuors à cordes que du piano. Mais c'est ça. Ça m'a toujours ravie de danser sur cette musique-là parce que c'est une musique qui laisse énormément d'espace aux danseurs. Et donc, on n'est pas encarcané dans une espèce de 1, 2, 3, 4. Oui. C'est pas ça du tout. C'est vraiment une musique qui fluctue aussi. Puis, la résonance qui a marqué Jeanne profondément, en fait, dans sa façon de travailler à elle. Parce qu'après ça, elle nous a dit souvent qu'elle cherchait ça aussi dans son écriture chorégraphique, pas toujours, mais à certains moments de sa vie, elle avait cherché ça, cette résonance-là, et elle a voulu la retravailler, mais différemment, avec nos corps à nous, notre imaginaire à nous, nos influx, Donc, voilà.
Mais on va écouter un petit bout et puis on va en parler après. Donc, on va écouter un morceau de cette pièce, non pas joué, je ne l'ai pas trouvé, par la pianiste Claudia Chan, mais par Marc-André Hamelin. Donc, on va en écouter quelques minutes et puis on revient tout de suite après ça. J'ai comme un peu l'impression de vous voir bouger au ralenti là-dessus. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez amené chacun dans votre vision personnelle, dans ce spectacle, dans ce projet qui était déjà là? Mais quelle est la mouture, quelle est l'amélioration que chacun de vous y a amené?
Oh.
Question qui tue.
Ben oui. En fait, c'est à répondre parce que je crois qu'on y met tellement de notre passion, en même temps de notre désir d'entrer dans la tête de Jeanne, de se, je vais dire un gros mot là, mais il faut bien l'interpréter, de se soumettre,
oui,
en fait, à ses directives, parce qu'elle a des directives précises. Et en même temps, il y a un espace de liberté qu'elle nous octroie assez phénoménal, régi par des petites consignes ici et là, des repères et tout, et une façon aussi d'être ensemble à moi et à Marc. Donc, ce que je dirais que j'ai apporté, je ne sais pas, c'est ma présence. Une présence qui doit être constamment renouvelée parce que quand on travaille, on repasse par les mêmes choses des fois, mais il faut constamment le renouveler parce que les petits détails ou même un petit changement, un changement de regard amène quelque chose de complètement différent. Donc, de savoir aussi prendre ça, les espèces de choses positives que Jeanne nous disait.
Oui.
Mais de continuer à évoluer avec ça, en fait. Je dirais ça pour ma part. Aujourd'hui, demain, je pourrais répondre autre chose.
Et pour Marc?
Ben, en fait, c'est une question qui est souvent très propre à plusieurs processus de danse.
Oui.
Et c'est certain qu'on n'est plus dans un temps, ou très peu dans un temps, où tout le mouvement est signé par le ou la chorégraphe. Donc, je change de réponse complètement. Je trouve que ce que j'ai apporté au processus, c'est tout simplement moi. Donc, je suis rentré dans le studio. Jeanne m'a choisi. Donc, elle voulait de moi quelque chose dont je n'ai aucune idée et je ne contrôle pas. Donc, je me mets devant elle et, comme dit Louise, je réponds à des consignes qui sont souvent très, très directives, très claires. Même si pas tout le mouvement est signé, il y en a une partie qui l'est, puis il y a une partie qui, sans être signée, est très dirigée par des consignes de comment être, d'énergie, de genre, de forme, de timing, de relation à l'autre. Et c'est qu'après ça, ce que j'apporte après ça, c'est Jeanne qui le voit et qui le sculpte.
D'accord. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que quand elle en parle, il y a quelque chose qui m'est resté, c'est deux danseurs portés par le moment présent. Mm-hmm. Et je trouve ça très important parce que dans le moment où on vit, là, je parle de la vie extérieure, on est dans le passé, dans le futur, dans plein de choses, mais pas suffisamment dans le moment présent de ce qu'on vit.
C'est très, très, très juste ce que vous dites. Vraiment, là, puis merci de le cibler si bien. Et c'est ce qu'on entend dans la musique de Feldman aussi. C'est comme si la musique de Feldman impose une écoute. C'est comme il y a une structure musicale qui fait qu'on n'a pas le choix d'être à l'écoute. Et
voilà.
Étant à l'écoute, on est au présent.
Et c'est peut-être le moment ou jamais, justement, de mettre ce projet-là maintenant pour nous aider quand on vient vous voir, d'être avec vous dans le moment présent.
Mm-hmm.
Parce que c'est ce qui s'invite aussi, c'est ce qui nous fait bouger. En plus, vous allez avoir une pianiste sur scène.
Oui, oui. C'est Claudia Chan.
Oui.
En fait, je sais très peu de choses sur elle.
Oui.
On s'est rencontrés pour la première fois hier.
Ah oui, effectivement, c'est récent.
On a travaillé tout l'après-midi ensemble et aujourd'hui aussi, et on continue demain et vendredi.
Si pour tout dire, ça a été Isolde de Lagacé, la directrice de la salle Bourgie, qui nous a proposé de danser avec l'interprétation live de Claudia. Donc, elle connaissait très bien Claudia, elle s'est dit, et puis Isolde connaît très bien la musique, là,
ah oui,
évidemment. Et donc, trouver la bonne personne pour cette pièce qui est assez particulière, il y avait juste elle, en fait, qui pouvait nous aider pour trouver la bonne personne. Donc, c'est vraiment grâce à Isolde que cette rencontre-là s'est faite. Puis après ça, ben, c'est certain que c'est grâce à Quartier Danse qu'on a pu réaliser le projet parce que, bon, ça fait partie de ces projets-là qui ont été interrompu par la pandémie. On a essayé de le remettre, on l'a presque remis, c'est retombé à l'eau. Et là, c'est grâce à ces partenaires-là là, que ça se réalise.
C'est de nouveau en cours et ça se passe ce samedi, là, le 11, et le dimanche 12 septembre à 13h30.
Non. À 14h30.
À 14h30, pardon alors.
Oui.
J'ai cru que j'avais vu 13h30. Autant pour moi, mais comme ça, 14h30. Très bien. Mais vous avez le droit d'arriver en avance si vous voulez. Et c'est quoi? C'était un plus pour vous de l'avoir comme pianiste sur scène? Ou ça change quelque chose à votre jeu, j'ai envie de dire?
Ça change tout. Pour moi, ça change tout. Ça change justement quand on parle de présence. La présence au son, la présence au mouvement, la présence à l'espace, à la lumière, dans cette salle particulière, avec des vitraux qui amènent la lumière du jour. Il y a quelque chose que pour moi qui est un que je qualifierais comme un plein. Et non pas, on n'est pas dans une boîte noire, on est dans un espèce de lieu avec une histoire, quand même une histoire ici. C'est chargé de toutes sortes de choses. Et le fait que Claudia joue et que nous, on est à côté d'elle, on bouge l'espace, c'est le cas de le dire. On est sur deux niveaux aussi. Je ne sais pas, ça me remplit. Je sors épuisée parce que c'est quand même beaucoup de concentration. Mais en même temps, à chaque fois, je me dis, ah, on a passé ce moment ensemble qui est un moment vraiment précieux parce que j'ai l'impression que c'est pour revenir à ce que disait Marc tout à l'heure, c'est le désir du vivant. Alors, j'ai l'impression qu'on est là-dedans pendant 1h10.
D'accord.
Et c'est un beau cadeau. Marc a sûrement d'autres choses à dire que moi.
Non, c'est bon.
Un petit mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de cette entrevue. Et en tout cas, j'ai eu grand plaisir à vous avoir tous les deux, parce que chacun est du moins dans la création que vous faites ensemble, et le ressenti de chacun amène justement à ce moment présent dont on parlait tout à l'heure. Alors, bravo pour ça.
Merci
pour ça. Donc, on répète, projet Feldman-Renault, c'est merveilleuse salle Bourgie, samedi 11 et dimanche 12 septembre à 14h30. Voilà.
Exactement.
Et les billets.
Festival Quartier Danse.
Voilà. Et les billets sont en vente sur sallebourgie.ca. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Et puis, je vous souhaite le meilleur et à une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir. Alors nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission. Donc je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé autant que moi ce qui s'est passé, parler de cinéma, parler de danse. En tout cas, vous avez du temps pour y aller. Merci à Maurice Bolduc pour la musique. Et nous, on va se quitter en chanson avec Gaël Faure qui va nous chanter « Ma folie, ma maison ». Au revoir, à demain. Et soyez tous là, parce que demain, d'autres excellents invités, encore une fois. Donc, à bientôt.
Tout ce temps-là pour reconnaître toutes ces choses qui font de moi un orage si grand. Jeté comme jeté à la mer, par-dessus bord, dans le courant. Tu revenais hurlant encore plus fort, toujours plus grand. Tengo que ir hasta Mexico, mirar mi paraíso perdido para cambiar eso. Se necesita tiempo, coraje y la fuerza del viento. J'ai toujours voulu désapprendre, puis réapprendre pour reconstruire ma folie, ma maison, ma raison. Avait tort, avait peur, avait mal. Je décide de m'offrir le temps. Le temps qu'il faudra pour réussir à calmer tout ce vacarme, accepter mon désordre, ne plus juger mes émotions, mais les aimer. Tengo que ir hasta Mexico, mirar mi paraíso perdido, para cambiar eso. Se necesita tiempo, coraje y la fuerza para cambiar eso. Se necesita tiempo, coraje y la fuerza del viento. Thank you. voir l'immobile et contempler. Ah, que c'est beau. Un tableau, un verre d'eau, une table de chardin sans chagrin. Tengo que ir hasta Mexico. Mirar mi paraíso perdido. Para cambiar eso se necesita tiempo, coraje y la fuerza. Para cambiar eso se necesita tiempo, coraje y la fuerza.